Ben merci à tous les trois. Et moi, je vais donc vous parler un petit peu du consensus et qui va permettre finalement de résumer un peu tout ce qui a été dit ce matin sous une forme un tout petit peu différente. Alors ce consensus, donc, il a fait travailler quatre groupes qui se sont réunis tout d'abord à Paris en septembre 2016 avec une revue de la littérature assez exhaustive et aussi chacun a pu ramener son expérience parce que finalement, comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, chaque patient est différent et on a vraiment besoin d'avoir une attitude personnalisée par rapport aux patients qu'on a face à nous. Et ça, c'est vraiment très très important. Et on n'a pas, finalement pas de recette magique, miracle pour tous les patients, et c'est vraiment au cas par cas. Ensuite, ce consensus a été discuté au Congrès du Sommeil en novembre 2016, présenté à l'Assemblée, et la rédaction d'articles est en cours. Mes seuls conflits d'intérêt sur ce sujet sont avec UCB Pharma, puisque vous avez bien compris que l'industrie pharmaceutique n'est pas très préoccupée par cette problématique. Alors les quatre groupes de travail étaient le suivant pour le diagnostic du syndrome des jambes sans repos. Il y avait Lorraine avec moi-même et Marie-Françoise Vecchierini. Pour le syndrome des jambes sans repos nouvellement diagnostiqué, Nadège Limousin qui travaille à Tours et Mathilde Flamand avec moi à Lille. La prise en charge du syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant, Isabelle Arnulf de la Pitié-Salpêtrière, Imad Gorayev de Bordeaux et Sofiane Chénini qui travaille avec Yves à Montpellier. Et enfin, la prise en charge du syndrome d'augmentation, Yves, Christophe et Smarandaleux qui vient aussi de la Pitié-Salpêtrière. Et pour tous les aspects pédiatriques, on a été aidé par Carmen Schroeder qui est pédiatre, qui est pédopsychiatre à Strasbourg. Alors le syndrome des jambes sans repos, le consensus sur le diagnostic, je ne reviendrai pas sur tous les critères diagnostiques dont vous a parlé Lorraine, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un phénotype initial du patient qui est en face de nous pour avoir, je dirais, une photographie à l'instant zéro de son syndrome des jambes sans repos lorsqu'on le voit pour la première fois. Ça nous permettra de décider de la prise en charge thérapeutique à avoir pour ce patient. Et ça nous permettra aussi d'avoir, pour le suivi, un instant de comparaison. Donc il faut poser un diagnostic de certitude avec l'existence donc, des 5 critères diagnostiques, rechercher une éventuelle étiologie à ce syndrome des jambes sans repos et en évaluer la sévérité. La conduite à tenir diagnostique doit être la même pour tous les patients. Et on vous propose donc cet arbre diagnostique suivant. En cas de suspicion de syndrome des jambes sans repos, c'est l'interrogatoire du patient qui est primordial. On y passera énormément de temps lors de la première consultation. Pour rechercher ces 5 critères diagnostiques, localiser les symptômes, les qualifier, en donner le rythme, puisque comme a dit Christophe, il y a des patients qui auront un syndrome des jambes sans repos une fois par semaine, une fois par mois. D'autres, ça sera 7 jours sur 7. L'histoire de la maladie, les antécédents, pour là aussi personnaliser le suivi, le retentissement dans la vie de tous les jours et la fréquence de survenue. À gauche, finalement, le cas assez typique, tous les critères diagnostiques sont présents, vous avez bien phénotypé votre patient. On examine sur le plan notamment neurologique le patient pour rechercher des signes notamment de neuropathie, des antécédents familiaux. Il faut décider à ce moment-là, fait-on oui ou non une polysomnographie ? Oui, si on est à Montpellier, avec un consensus un peu personnalisé. Oui, si le patient que vous avez face à vous n'arrive pas à exprimer ses symptômes, vous n'arrivez pas à évaluer la sévérité du patient. Oui, s'il s'agit d'un enfant, je pense qu'il faut vraiment le faire de façon systématique. Et je dirais que là aussi, la décision doit être personnalisée. La biologie pour la ferritinémie. Et on se retrouvera face à un syndrome des jambes sans repos, soit primaire avec un bilan négatif, soit comorbide. Et on recherchera les facteurs aggravants, et je ne vais pas revenir sur ces facteurs aggravants qu'on vous a amplement décrits depuis tout à l'heure. Et à l'issue de tout cela, on évaluera la nécessité ou pas de traiter. Ça, c'est en cas de syndrome des jambes sans repos tout à fait typique. Si on a un doute diagnostique, l'examen clinique doit être très poussé, on doit éliminer les diagnostics différentiels, rechercher toujours les antécédents familiaux. Si le syndrome des jambes sans repos est possible, mais on n'a pas de certitude diagnostique, peut alors se poser la question de réaliser systématiquement une polysomnographie pour rechercher des arguments en faveur de ce diagnostic. Et enfin, on peut, dans certains cas, éliminer aussi le syndrome des jambes sans repos et adresser le patient ou compléter le bilan par d'autres examens, notamment neurophysiologiques, si nécessaire. Donc ça, c'était pour le diagnostic. Donc important vraiment de se poser initialement pour bien poser le diagnostic et bien connaître le patient qu'on a face à nous. Deuxième consensus, le traitement du syndrome des jambes sans repos nouvellement diagnostiqué. On va revenir un peu sur ce qu'a dit Yves et Christophe. Tout d'abord, il faut n'envisager le traitement que si le diagnostic est certain. Alors, on vous le rabâche depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important. Il ne faut pas faire de test thérapeutique. Moi, quand je vois dans un courrier, on fait un test thérapeutique, notamment par un agoniste dopaminergique, on peut faire pire que mieux. Il ne faut vraiment pas retenir ce genre de choses. Avant tout traitement, diagnostic positif, éliminer les facteurs aggravants, je ne les ai pas remis, et traiter l'éventuelle carence martiale, là aussi, c'est primordial. Et le traitement sera fonction de la sévérité, et j'aurais pu aussi rajouter du phénotype du patient. En cas de syndrome des jambes sans repos léger à modéré, on traite la cause des facteurs aggravants, on revoit un peu l'hygiène de sommeil, parce que finalement la dette de sommeil, du fait d'une mauvaise hygiène de vie, ça peut parfois tout à fait améliorer les symptômes. On dose la ferritinémie. Si elle est inférieure à 50 ou 75 microgrammes par litre selon nos habitudes, on supplémente en fer. Si la ferritinémie est au-delà de ses limites, peut se poser la question d'un opioïde léger à la demande. Voilà, j'ai un syndrome des jambes sans repos une fois ou deux fois par mois. Je prends ce soir-là un tout petit peu d'opioïde. En cas de syndrome des jambes sans repos sévère à très sévère, toujours traiter la cause, l'hygiène de sommeil, les facteurs favorisants, doser la ferritinémie, ça, rien ne change. Par contre, se posera alors la question, lorsque la ferritinémie sera normalisée, de mettre en place un traitement médicamenteux bien spécifique, agoniste dopaminergique ou antiépileptique ou opioïde. Alors, comment choisir? Yves vous en a parlé un peu, Christophe aussi. Finalement, on peut choisir le traitement en fonction des antécédents ou du retentissement du syndrome des jambes sans repos chez le patient. On choisira plutôt un agoniste dopaminergique dans les formes très sévères de syndrome des jambes sans repos, en cas de dépression comorbide, en cas d'insuffisance rénale, et j'aurais pu rajouter aussi en cas de présence de mouvements périodiques du sommeil très importants à la polysomnographie. J'insiste à nouveau, mais toujours trouver pour l'agoniste dopaminergique, la dose minimale, et un agoniste à demi-vie plus prolongé, éviter les courtes durées, et ne pas hésiter à introduire une bithérapie finalement assez vite, pour éviter d'augmenter les doses d'agoniste dopaminergique justement de façon trop importante, toujours pour, en arrière-pensée, ne pas induire un syndrome d'augmentation. Et enfin, ne pas dépasser les doses maximales pour les agonistes dopaminergiques. J'y reviendrai à la fin de mon topo pour ces doses maximales à ne pas dépasser. On retiendra plutôt en première intention un alpha-2-delta ligand, donc Neurontin ou Lyrica, en cas de syndrome des jambes sans repos douloureux, en cas de plainte algique associée au syndrome des jambes sans repos, en cas de trouble anxieux, et enfin, en cas d'antécédent de trouble du contrôle des impulsions, puisque, comme l'a dit Christophe, on oublie les agonistes dopaminergiques chez ces patients-là. Et je dirais, même avant d'arriver au TCI, si vous avez un patient qui a un syndrome des jambes sans repos, mais qui a l'habitude d'énormément jouer, d'aller parier, méfiance, et peut-être là aussi commencer par cette classe thérapeutique. Les opioïdes, plutôt en cas d'échec des thérapies précédentes, en cas de syndrome douloureux associé, moi je l'utilise volontiers aussi en bithérapie pour éviter d'augmenter trop les doses des agonistes. Donc traitement personnalisé en fonction du patient qui est face au médecin. Et là aussi, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, un médecin expert dans le syndrome des jambes sans repos, c'est quand même beaucoup mieux, même si on n'est pas si nombreux que ça, je pense, à être très experts dans le syndrome des jambes sans repos, et on a tous des délais d'attente relativement longs. Pour le syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant, la définition qui a été retenue pour ce syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant par le groupe de travail était la suivante: un syndrome des jambes sans repos sévère à très sévère avec, à l'échelle de sévérité, un score supérieur à 20, qui persiste ou qui récidive depuis plus d'un mois avec l'échec de deux traitements de classes thérapeutiques différentes, en sachant que ces deux traitements devaient être utilisés à des doses correctes, à des horaires aussi corrects. Comme l'a dit Christophe, parfois d'avancer l'heure de la prise, ça permet d'améliorer les symptômes et de faire disparaître les symptômes. Et le syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant ne doit pas répondre aux critères du syndrome d'augmentation dont on vous a parlé. Dès lors où on a ces quatre critères, on peut parler de syndrome des jambes sans repos pharmacorésistant. Dans ce cadre-là, si on a bien éliminé le syndrome d'augmentation, on va rechercher le pourquoi de cette pharmacorésistance. Et avant de vous présenter ça, je vais vous montrer juste une vidéo pour vous montrer à quoi ça peut ressembler à un patient qui est très sévère, très gêné par son syndrome des jambes sans repos.